des paris qui ressemblent beaucoup à des assurances. Tous les produits dérivés sont donc avant tout des paris qui permettent de réaliser des gains ou des pertes en fonction de la manière dont les prix, le taux directeur et les risques de non-remboursement d'un sous-jacent varient. Ainsi, tous peuvent-ils être utilisés comme des assurances? En effet, peut-être avez-vous déjà remarqué qu'une assurance n'est rien d'autre qu'un pari. L'assureur qui s'engage à vous rembourser votre voiture si vous avez un accident fait un pari. Il parie sur le fait que vous n'aurez jamais d'accident, ce qui, s'il le gagne, lui permet de récupérer les primes que vous versez tous les mois sans jamais n'avoir rien à payer de sa poche. Dans le cadre d'une assurance auto, c'est le conducteur qui parie qu'il aura un accident. Même si cela peut paraître contradictoire, c'est bien le propriétaire de la voiture qui gagne son pari en cas d'accident, puisque ce n'est pas lui qui paye les pots cassés. Les produits dérivés sont très similaires aux assurances classiques qui vous sont familières, mais ils intègrent néanmoins trois différences fondamentales. Lorsqu'il s'agit de payer aujourd'hui pour s'assurer contre un risque futur, option swap CDS, la valeur du risque est donnée par un prix payé en une fois. En effet, alors qu'une assurance automobile ou habitation répartit la valeur du risque le long d'une longue chaîne de paiements souvent mensualisée, les produits dérivés donnent lieu à un paiement unique au moment de la transaction. Également, les produits dérivés couvrent des risques dont la durée est bien définie. Il n'existe pas d'option, de swap ou de CDS permettant de s'assurer contre un risque sur une durée infinie. Alors qu'il est évident que vous devez posséder une voiture ou une maison pour avoir le droit de l'assurer, il n'y a nul besoin de posséder quoi que ce soit pour acheter des produits dérivés. Imaginez par exemple qu'il vous soit possible de prendre une assurance automobile sur le bolide tout neuf de votre voisin que vous savez conduire n'importe comment. Un pari morbide et pas très éthique car votre intérêt serait alors de faire en sorte que votre voisin ait un accident, ce qui vous permettrait de toucher le montant de la valeur de la voiture. Comme vous pouvez le constater, l'éthique et la finance. Attention, n'allez pas imaginer que parce que vous avez assuré la voiture de votre voisin à votre nom, lui-même ne puisse pas assurer la même voiture au sien. Dans le monde des produits dérivés, il peut exister plusieurs assurances à plusieurs noms pour un même objet, un même sous-jacent. C'est aussi en cela que les produits dérivés sont des paris. À une émission obligataire de 500 millions d'euros, peuvent tout à fait être associés des CDS dont le montant total couvre une somme supérieure. Cela indiquerait qu'un ou de nombreux investisseurs parient massivement sur le défaut de l'émetteur de ces obligations. Alors que vous pouvez appeler votre assureur demain matin pour annuler votre contrat d'assurance habitation, vous ne pouvez en général pas faire de même avec un produit dérivé. En effet, les produits dérivés ne s'annulent pas, ils expirent. Chaque produit dérivé est fourni avec une date de maturité et le seul moyen de s'en débarrasser avant cette échéance, même s'il y a des exceptions, est de le vendre. De la même manière, le seul moyen pour le vendeur d'un produit dérivé de se débarrasser de son engagement est d'acheter un produit dérivé en tout point similaire à celui qu'il avait précédemment vendu. C'est en partie pour cela que les produits dérivés ne donnent pas lieu à des versements mensuels en continu, comme les assurances classiques. En effet, la grande majorité des produits dérivés est conçue, à la différence des contrats d'assurance nominatifs, pour pouvoir changer de main à volonté. Autrement dit, les produits dérivés sont des paris qui, comme les actions ou les obligations, voient leur prix évoluer et changent de main constamment au cours de leur vie. Bien qu'il soit certain qu'un produit dérivé soit toujours composé de deux sièges, celui de l'acheteur qui parie dans un sens et du vendeur qui parie dans l'autre, l'identité des investisseurs assis à ces deux places peut changer de nombreuses fois entre la naissance et la mort du produit dérivé. Les produits exotiques. Il existe des produits dérivés appelés exotiques. On les nomme ainsi car ils sont beaucoup plus complexes que leurs confrères standardisés. En effet, certains investisseurs ont besoin de se protéger contre des risques financiers très spécifiques, sur des périodes tout aussi spécifiques. Sans rentrer dans le détail, disons simplement qu'il est beaucoup plus simple pour ces investisseurs de contacter des banques d'investissement afin qu'elles leur conçoivent des produits dérivés sur mesure, plutôt que d'essayer de se débrouiller avec les produits dérivés existants. Parce qu'ils sont sur mesure, les exotiques ne changent pas de main facilement et se comportent davantage comme des assurances classiques. Maintenant que vous êtes au point sur les produits dérivés, revenons-en à la notion de liquidité. En quoi les produits dérivés permettent-ils d'améliorer la liquidité des marchés financiers? De la nécessité des produits dérivés. Commençons par un petit rappel. La liquidité est obtenue quand suffisamment de monnaie se trouve au bon endroit, dans la poche des acheteurs, et que les acteurs des marchés, acheteurs et vendeurs, s'accordent sur les prix. Accroître la quantité de monnaie disponible sur les marchés? Pour ce qui est de la quantité de monnaie disponible, les produits dérivés sont à la fois un risque et une opportunité. En effet, autoriser les produits dérivés permet aux investisseurs frileux, ceux qui ont peur du risque, de faire entrer sur les marchés financiers leur épargne et de se débarrasser des risques qu'ils détestent, aux dépens, ou au profit, c'est selon, des investisseurs shootés à l'adrénaline, donc produits dérivés égale plus de monnaie sur les marchés. Oui, sauf qu'il faut aussi de la monnaie pour assurer les échanges de produits dérivés. Et oui, les parieurs doivent pouvoir changer d'avis. Entre la monnaie en plus qui devrait permettre la liquidité des actions et des obligations, le véritable objectif, et celle qui doit permettre la liquidité des produits dérivés eux-mêmes, on a vite fait de ne plus savoir où on en est. Y a-t-il un marché qui empiète sur l'autre? La monnaie introduite par le biais des produits dérivés bénéficie-t-elle aux échanges de produits classiques? Ou est-ce l'inverse? Il est tout simplement impossible de le dire avec certitude. Le cas des arbitragistes, véritables fournisseurs de liquidités? Qui sont les investisseurs shootés à l'adrénaline? Qui sont les vendeurs d'assurance qui acceptent de supporter les risques dont les investisseurs frileux ne veulent pas? On peut les regrouper en deux catégories. Les market makers, qui travaillent dans les salles des marchés des banques d'investissement, et certains gérants de hedge funds. On les appelle des arbitragistes. Je sais bien que je vous ai expliqué qu'en théorie, le rôle d'un market maker est de vendre tout ce qu'il achète à un prix légèrement supérieur. Mais comment faire pour s'en assurer quand le prix de chaque produit financier, action, obligation ou produit dérivé, peut, sans qu'on puisse le prévoir, augmenter ou diminuer. La solution passe par l'utilisation, achat ou vente, d'autres produits financiers dont le prix varie en sens inverse. Ainsi, lorsque les market makers achètent un produit financier A, ils vendent un autre produit financier B dont le prix varie à l'unisson avec A, et donc sert d'assurance. Toute la question est d'arriver à prédire la manière dont les prix de A et de B vont se comporter l'un par rapport à l'autre. Or, il existe des modèles mathématiques qui savent prédire ce genre de choses. Attention, encore une fois, ce ne sont pas des modèles qui savent prédire si le prix de A ou de B va monter ou baisser. Ce sont des modèles qui savent prédire comment le prix de A va se comporter par rapport à celui de B, en sachant que l'amplitude des variations de A et de B n'est pas la même et varie au cours du temps. Autrement dit, les modèles mathématiques utilisés sont très, très complexes. Grâce à la valeur du produit financier qui sert d'assurance, B, dont la valeur s'ajoute ou se soustrait à la valeur du produit financier en stock, A, le market maker est supposé toujours réussir, que le prix ait monté ou diminué, à vendre ces produits financiers légèrement au-dessus de leur prix d'achat. Peu importe les détails de cette technique complexe d'association de produits financiers, on parle de technique d'arbitrage ou de hedge en anglais, d'où les hedge funds. Disons simplement que si celle-ci fonctionne parfaitement dans le monde merveilleux des modèles mathématiques théoriques, elles ne fonctionnent pas toujours en réalité. Quelle que soit la prédiction, rien n'est jamais certain sur les marchés financiers et les modèles peuvent faire d'énormes erreurs. Voilà pourquoi, en réalité, les market makers ne gagnent pas leur pain en vendant les produits financiers qu'ils achètent à un prix légèrement supérieur. Non pas que ce soit impossible, ce sont simplement les modèles mathématiques qui ne sont pas suffisamment précis pour garantir que ce sera toujours le cas. De ce fait, les market makers font eux aussi des paris. Ils parient sur les variations attendues entre A et B en faisant plus ou moins confiance à leur modèle mathématique. Et c'est le résultat de ces paris qui leur fait faire, ou pas, des bénéfices, souvent seulement comptables. Pour résumer, les investisseurs frileux parient sur la hausse ou la baisse des produits financiers, parfois en prenant des assurances en cas d'incertitude trop importante, tandis que les arbitragistes parient sur les variations d'écart de prix entre les produits financiers. Et, magie du spectacle, il se trouve que leurs intérêts sont, dans le monde de la théorie mathématique, souvent complémentaires. Ce que les uns veulent vendre, les autres veulent l'acheter, et inversement. Grâce aux produits dérivés, les marchés financiers se retrouvent donc toujours, théoriquement, en position de mettre un acheteur en face d'un vendeur et inversement. N'est-ce pas là la garantie d'une liquidité infinie? Vous l'avez deviné, pas du tout. Si en période de relative stabilité des prix, les arbitragistes sont effectivement au rendez-vous, ils disparaissent bien vite quand une tempête s'annonce. Depuis 1998, qui a vu l'énorme faillite du hedge fund américain LTCM, Long Term Capital Management, qui comptait parmi ses membres les inventeurs des modèles mathématiques décrivant les méthodes d'arbitrage, les arbitragistes sont parfaitement au courant que leurs modèles mathématiques sont complètement aux fraises quand la panique s'empare des marchés. Ainsi, comme en temps de crise, leur boussole peut tout à fait leur indiquer le nord alors qu'ils font face au sud, et qu'ils en sont bien conscients, les arbitragistes ont plutôt tendance à se mettre dans le même sens que tout le monde. Ils vendent les produits financiers qui perdent de la valeur et achètent ceux qui en prennent, ce qui participe justement à la disparition de la liquidité. Une fois de plus, tout semble magnifique sur le papier, mais la dure réalité est que les techniques d'arbitrage permises par les produits dérivés ne permettent pas la liquidité quand on en a réellement besoin en période de crise. Liquidité et produits dérivés, de la théorie à la réalité. L'idée qui consiste à croire que le problème de liquidité des marchés financiers en période de crise peut être résolu par la création de toujours plus de produits dérivés ou de toute autre forme de techniques spéculatives diverses et variées repose sur une mauvaise compréhension du problème. Plus particulièrement, elle repose sur une simplification du mécanisme de fixation des prix. Si les prix étaient des anticipations formées par des investisseurs épargnants à partir d'informations dûment triées et accessibles à tous, alors la solution des produits dérivés fonctionnerait probablement pour éviter les crises de liquidité et donc les crises financières. La belle théorie des investisseurs rationnels. Dans un monde théorique parfait, les crises financières n'existent pas parce qu'elles n'ont aucun sens. En effet, une crise financière provoque des baisses de prix et des ralentissements de l'activité économique qui n'ont aucun rapport avec des informations pertinentes. La crise n'est pas provoquée par un manque de ressources naturelles, un manque d'énergie, une famine, un virus ou une guerre. La crise est le résultat d'une mécanique de prix qui s'est emballée. Elle est le résultat de prix qui ont été fixés sans tenir compte des réalités économiques, ce qui, dans un monde théorique parfait, ne devrait jamais être le cas. Récapitulons les postulats posés dans le monde théorique parfait. Chaque épargnant est un professionnel de la finance, aussi compétent qu'un gérant de fonds d'investissement. Cela permet d'éviter que les épargnants retirent ou se retiennent d'injecter leur monnaie sur les marchés financiers sans aucune justification. On peut dire qu'il faut donc que les acteurs des marchés financiers soient des investisseurs épargnants. Chaque investisseur épargnant a accès à toutes les informations et sait faire la différence entre celles qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas. Le concept d'information pertinente. Une information pertinente est une information dont la prise en compte joue un rôle dans l'estimation du potentiel de création de richesse d'une entreprise, valeur des actions, dans celle du risque de fluctuation des cours, valeur des options, dans celle du risque de mouvement du taux directeur, valeur des obligations et des swaps, et dans celle du risque de non-remboursement, valeur des obligations et des CDS. Tous les investisseurs épargnants n'aboutissent pas aux mêmes conclusions suite à leurs analyses, mais il existe une quantité suffisante de monnaie disponible et de produits dérivés sur les marchés financiers pour permettre à chacun de prendre le pari qu'il souhaite par rapport à l'analyse effectuée. Cela signifie que tous les avis peuvent s'exprimer librement. De l'expression de tous ces avis est supposé émerger, rien ne permet de l'affirmer, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un acte de foi, un compromis qui constitue l'estimation la plus pertinente de la valeur des entreprises et de celle des différents risques. Ainsi, si les crises financières sont une réalité, c'est que l'une ou plusieurs des quatre conditions que nous venons de décrire, il y en a d'autres mais je simplifie, n'est pas validée. Afin de se rapprocher le plus possible de ce monde théorique idéal, il faudrait donc éduquer les épargnants, rendre publique l'information, libéraliser la finance, permettre l'expression de tous les avis par le biais de tous les produits dérivés possibles et imaginables et, bien sûr, avoir la foi dans les marchés. Un élément oublié, le facteur humain. Ce raisonnement oublie trois éléments essentiels qui le poussent vers une conclusion incorrecte. 1. Même dans le monde le plus proche possible de l'utopie théorique, il est impossible que chaque épargnant soit formé comme un professionnel de la finance. Cela nécessite un investissement de temps que l'on ne peut pas demander à l'ensemble des épargnants. Ainsi, il faut nécessairement penser les marchés financiers en y intégrant des professionnels de la finance qui représentent les épargnants. Or, dans ce système représentatif financier, ceux qui décident des stratégies dominantes et donc des prix sont ceux qui récoltent le plus la confiance des épargnants. Dit autrement, les fonds d'investissement les plus riches sont aussi ceux qui décident le plus des prix. Mais alors, comment ces fonds parviennent-ils à convaincre les épargnants? Si l'on souhaite que les fonds dominants soient aussi ceux qui trient et analysent l'information de la meilleure manière, alors il faut supposer que les épargnants savent arbitrer entre les différentes techniques d'analyse financière, auxquelles ils n'ont de toute manière pas accès puisque les fonds d'investissement ne révèlent pas leurs secrets, et donc qu'ils sont tout aussi connaisseurs que les professionnels financiers auxquels ils font confiance. Puisque nous avons déjà expliqué que cela ne peut pas être le cas, il faut garder à l'esprit que les fonds d'investissement les plus puissants ne sont pas forcément ceux qui mettent sur pied les stratégies les plus pertinentes. 2. Les représentants des épargnants, les fonds d'investissement, sont contraints par des mécaniques de flux indépendantes de leurs analyses plus ou moins pertinentes. Lorsque de nombreux épargnants veulent récupérer leur mise, peu importe que les analyses des gérants montrent que ce n'est pas le moment de vendre. Ceux-ci doivent s'exécuter rapidement, même s'ils pensent que la décision est mauvaise. L'effet est exactement le même en sens inverse, et d'après les analyses de flux faites précédemment, il est aussi beaucoup plus courant. Lorsque de nombreux épargnants confient leur monnaie au fonds d'investissement, ceux-ci n'ont pas le choix que d'acheter des produits financiers, même si leurs analyses plus ou moins pertinentes montrent que les prix sont déjà trop élevés. Autrement dit, non seulement la monnaie sur les marchés financiers est injectée et retirée des poches de ceux que les épargnants, qui ne connaissent pas grand-chose aux mécanismes financiers, choisissent, mais en plus, les moments sélectionnés par les épargnants pour injecter ou retirer cette monnaie ne correspondent pas forcément aux moments propices à l'investissement ou au désinvestissement. 3. S'il existe le moindre doute quant au fait qu'une information parfaitement inutile pourrait être considérée par d'autres comme une information pertinente, alors un investisseur rationnel, c'est-à-dire un investisseur dont l'objectif est de faire le maximum de bénéfices, aura tout intérêt à considérer cette information comme pertinente pour ses prises de décision. Je veux dire en cela que le principe même du marché consiste à rémunérer les suiveurs. Même si le troupeau se dirige vers la falaise, tant que la distance qui l'en sépare est inconnue ou qu'elle est envisagée comme suffisamment lointaine, le plus rationnel des moutons aura toujours intérêt à suivre le troupeau. Une anecdote toute simple pour expliquer le principe du marché. C'est sûrement l'un des plus vieux mécanismes du monde. Un marchand de bibelots vous propose de vous vendre un objet, soi-disant fantastique, à un prix de 10 euros, qui vous protégera contre l'effet des taches solaires sur la santé. Cela tombe bien, toutes les télévisions annoncent l'apparition prochaine d'immenses taches solaires à la surface du Soleil. Alors que vous hésitez, votre ami de longue date, astrophysicien de formation, vous regarde d'un air amusé. Lui sait parfaitement que ce bibelot n'a absolument aucune valeur, car les taches solaires n'ont aucun impact sur la santé. L'information fournie par le marchand n'est pas pertinente. Oui, c'est une fake news. Tandis qu'il se lance dans une longue explication très convaincante et pleine de bon sens, un passant se jette sur l'occasion et achète le bibelot sous votre nez. Le marchand sort alors un objet identique de sa besace et le propose à la vente à un prix supérieur de 15 euros. À nouveau, un passant vous fait manquer cette occasion en étant plus rapide que vous. C'est seulement lors de la troisième occasion d'achat, qui porte le prix de l'objet à 20 euros, et sous le regard désapprobateur de votre ami, que vous êtes enfin le plus réactif. Information pertinente versus perception de l'information pertinente. Quelle est la véritable valeur de cet objet que vous venez d'acquérir ? À l'évidence, celle-ci n'a rien à voir avec sa capacité de protection contre les taches solaires. Peu importe, tout ce qui compte, c'est qu'une véritable foule s'est formée autour du marchand et que le prix de vente des bibelots continue d'augmenter. Après avoir patienté quelques minutes, vous vous décidez à vendre votre objet 60 euros à un passant désespéré qui n'avait jusque-là pas réussi à obtenir le sien. Que s'est-il passé ? Vous venez d'exploiter à votre profit la réaction d'une foule candide à une information qu'elle croit pertinente, mais qui ne l'est pas. Ainsi, parce que le plus grand nombre décide de l'évolution des prix, ce n'est pas la pertinence de l'information qui compte, c'est la perception de cette pertinence par le plus grand nombre. Finalement, quelques minutes plus tard, votre ami monte sur un tabouret et explique longuement à la foule pourquoi les bibelots du marchand ne valent rien du tout. Que va-t-il se passer? Votre ami va-t-il réussir à convaincre la foule? Le prix des bibelots va-t-il diminuer? Devriez-vous retenter votre chance et racheter un nouveau bibelot maintenant pour essayer de le revendre plus cher plus tard? Pourquoi ne pas vous-même monter sur un tabouret et expliquer à cette foule, beaucoup plus succinctement que votre ami, comment vous venez de gagner 40 euros en l'espace de 5 minutes? D'ailleurs, alors que vous réfléchissez à tout cela, une dizaine de passants qui ont réussi le même coup que vous sont déjà en train de s'organiser pour faire taire les arguments de votre ami et convaincre la foule qu'il faut investir. Ils ameutent toujours plus de passants et réussissent à les convaincre de leur confier leur monnaie pour qu'ils achètent des bibelots à leur place, moyennant une petite commission. La stratégie des investisseurs est tout à fait rationnelle d'un point de vue financier. En effet, leur objectif n'a rien à voir avec le tri d'informations véridiques ou avec la révélation de la vérité, mais bien avec la maximisation des bénéfices. De leur point de vue, la vérité de la croyance de la foule n'a que peu d'importance. Tout ce qui compte, c'est la possibilité d'exploitation de cette croyance à leur avantage. Qu'est-ce qui pourrait bien mettre fin à cette augmentation des prix? Il ne peut se passer que deux choses. Soit l'opinion de la foule se retourne subitement, la croyance en l'effet protecteur du bibelot disparaît et son prix s'effondre. Cela pourrait être dû aux explications de votre ami, à une annonce faite à la télévision quant à la non-dangerosité des taches solaires, ou encore à l'arrivée au sein de la foule de personnes ayant des connaissances plus poussées en astronomie. Comme on peut imaginer tout et n'importe quoi, ce retournement est extrêmement difficile à prévoir. Soit la foule manque de monnaie pour s'offrir le bibelot. Le marchand a poussé les prix tellement haut que les passants n'ont plus les moyens de se l'offrir.